Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la Journée internationale de la paix. Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme s'inquiète de la recrudescence de la violence en Ituri et au sud Kivu, en République démocratique du Congo. Depuis le début du mois, l'Afrique du Sud est touchée par une vague de violence xénophobe. Et en dossier, une responsable du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme explique comment ce fonds a sauvé 32 millions de vies depuis sa création. Les Nations Unies célèbrent aujourd'hui la Journée internationale de la paix en insistant sur la nécessité de lutter contre le changement climatique, alors que les dirigeants du monde entier sont attendus lundi à l'ONU avec des propositions concrètes pour le climat. Antonio Guterres a rappelé l'urgence d'agir et la menace que représente le changement climatique pour la paix dans le monde. Pascal Sim nous en dit plus.
La cloche du Jardin de la paix a retenti vendredi matin au siège de l'ONU pour la Journée internationale pour la paix. L'occasion pour Antonio Guterres de rappeler que la paix est l'objectif qui unit les Nations Unies. Une paix qui reste malheureusement hors de portée pour de nombreuses personnes et communautés dans le monde. Aux quatre coins du monde, nous voyons des conflits partout, des tensions croissantes, des rapports de force peu clairs et une insécurité en hausse, a déploré le secrétaire général de l'ONU. Cette année, le thème de la Journée internationale pour la paix est l'action pour le climat, car nous savons à quel point le changement climatique menace la paix dans le monde, a souligné Antonio Guterres. Alors que les dirigeants du monde entier sont attendus lundi pour le sommet de l'ONU pour le climat avec des propositions concrètes. Le secrétaire général a rappelé que les pays les plus vulnérables au changement climatique sont aussi les plus vulnérables au conflit, citant notamment la situation de la région du Sahel, où la sécheresse engendre les tensions entre agriculteurs et éleveurs pour des ressources rares et facilite la propagation du terrorisme. À trois jours du sommet de l'ONU pour le climat, Antonio Guterres a rappelé que le monde est dans une course contre la montre et qu'il n'y a pas de temps à perdre.
Le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme est inquiet de la recrudescence de la violence en Ituri et au sud Kivu, deux provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Cette augmentation de la violence a entraîné des déplacements massifs. Le commissariat demande au gouvernement de s'attaquer aux causes profondes de cette violence. Plus d'explications avec Alpha Diallo.
Selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, ce regain de tension dans l'Est de la RDC est le fait des groupes armés et ces derniers mois, ces violences se sont traduites par des violations graves des droits humains, des dizaines de villages incendiés et des milliers de personnes déplacées. Mais la semaine dernière, ce sont au moins 26 civils qui ont été tués en deux jours en Ituri. La dernière exaction en date a été relevée mardi dernier quand 14 civils ont été brutalement tués et 4 blessés à Bogatsele. Parmi les victimes figuraient 11 enfants. Le lendemain, 12 autres civils, dont 3 femmes et 4 enfants, ont été tués dans 3 endroits différents, dont un camp de déplacés. Toujours dans l'est de la RDC, mais au sud Kivu, en l'espace de 6 jours, du 8 au 14 septembre dernier, au moins 8 civils ont été tués dans la province. Ces vagues successives de violence ont entraîné des déplacements massifs. Selon l'ONU, il y a eu plus de 250 000 déplacés internes dans cette région depuis juin dernier. A noter que l'Organisation mondiale de la santé s'est également préoccupée des attaques répétées contre les équipes de riposte d'Ebola dans l'Ituri.
Depuis le début du mois, l'Afrique du Sud est touchée par une vague de violence xénophobe qui a poussé au moins 1500 ressortissants étrangers, principalement des migrants, mais aussi des réfugiés et des demandeurs d'asile, à fuir leur foyer. C'est ce qu'indique l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR. Le HCR appelle le gouvernement sud-africain à prendre des mesures pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes. On écoute Charlie Yaxley, porte-parole du HCR.
Au moins 12 personnes, dont des ressortissants étrangers et des Sud-Africains, auraient été tuées depuis le début des récentes violences. Environ 1500 ressortissants étrangers, principalement des migrants, mais aussi des réfugiés et des demandeurs d'asile, ont été contraints de fuir leur foyer en raison des violences. Au cours des dernières semaines, notre personnel a reçu un nombre croissant d'appels sur nos lignes téléphoniques d'urgence, les gens signalant que leurs maisons et entreprises sont pillées, que des immeubles sont incendiés, que les gangs multiplient les activités dans les rues et que les incidents de violence sexuelle ont augmenté. Près de 800 ressortissants africains, pour la plupart originaires du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe, ont cherché refuge dans les salles communautaires dans le township de Katlong. Beaucoup souhaitent rentrer chez eux, disant qu'ils ne se sentent plus en sécurité en Afrique du Sud. Des rapports indiquent que 73 Malawiennes, 138 Mozambicains, 314 Nigériens et 72 Zimbabwéens ont déjà décidé de rentrer chez eux.
Le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme a sauvé 32 millions de vies depuis sa création. C'est ce qu'il affirme dans son dernier rapport. Selon le fonds, ces résultats s'expliquent par les partenariats formés entre les acteurs du Fonds mondial, les gouvernements, les experts techniques et la société civile, mais aussi par des progrès en matière de diagnostic et de traitement. Pour en savoir plus sur les différentes initiatives, les succès et les défis du Fonds mondial, Christina Silvero a joint à Genève Françoise Vanni, chargée des relations extérieures du Fonds.
Alors, il y a un certain nombre de succès qui ont permis d'atteindre ces résultats au fil du temps. Bon, bien sûr, les progrès en matière de diagnostic sur les différentes maladies, les progrès en termes de traitement. Donc aujourd'hui, par exemple, grâce au financement du Fonds mondial, 18,9 millions de personnes ont bénéficié de traitements antirétroviraux contre le VIH. C'est une couverture qui est passée de 22% en 2010 à 62% en 2018, donc c'est extrêmement important. De la même façon, les traitements, par exemple, pour les mères séropositives, pour éviter la transmission du virus aux nourrissons, pour lesquels maintenant on a une couverture de 83%. Donc ce genre de progrès en termes de traitement, évidemment, sont essentiels. Et pour continuer sur la question du VIH, une autre chose qui est extrêmement importante, évidemment, c'est la prévention. Donc en 2018, pour citer à nouveau un résultat de l'an dernier, dans les pays où le Fonds mondial investit, 8,3 millions de personnes ont bénéficié des services de prévention contre le VIH. Et c'est évidemment essentiel puisqu'on rencontre encore des difficultés auprès de certaines populations, et notamment, par exemple, les adolescentes et les jeunes femmes en Afrique qui courent deux fois plus de risques d'être séropositives que les garçons et pour lesquels le Fonds mondial a mobilisé des fonds supplémentaires, 140 millions supplémentaires en faveur de programmes qui favorisent l'autonomisation de ces jeunes filles dans les pays les plus touchés de façon à réduire les infections.
Qu'en est-il pour le paludisme ?
Le paludisme, là aussi, et comme pour le VIH, nous avons enregistré des succès importants, à la fois tout au long de la trajectoire du Fonds mondial, puisque les décès dus au paludisme ont chuté de 46% depuis 2002. Et pour ce qui concerne l'année 2018 plus particulièrement, nous avons distribué 131 millions de moustiquaires imprégnés et de longue durée qui permettent de protéger les familles du paludisme. Et de la même façon, 9,4 millions de femmes enceintes ont reçu un traitement préventif. Donc ça, c'est au niveau des résultats clés.
Alors, le Fonds mondial signale de nouvelles menaces.
Oui, alors c'est effectivement le message un petit peu de ce rapport de résultats, c'est de dire, bon, évidemment, c'est le partenariat peut se féliciter d'avoir sauvé au fil des années 32 millions de vies et puis d'avoir permis d'accéder au traitement et à la prévention à toutes ces personnes au cours de l'année 2018 en particulier. Néanmoins, la deuxième partie du message qui est essentielle de faire passer, c'est qu'effectivement, il y a des menaces très très sérieuses qui mettent en cause la poursuite de ces progrès et qui pourraient même, si on se reposait trop sur nos lauriers, nous amener à rebours et nous faire reculer. Donc, en particulier, si on prend la question du VIH-SIDA, donc un des défis principaux, c'est la prévention pour laquelle il faut vraiment que tous les acteurs, tous les partenaires redoublent d'efforts, en particulier auprès des populations les plus vulnérables, donc les jeunes filles et les jeunes femmes dans un certain nombre de pays d'Afrique, mais aussi les populations qu'on dit clés, populations plus vulnérables au VIH, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, les travailleurs sexuels, les personnes qui injectent des drogues notamment. Donc ça, c'est sur le VIH. Sur le paludisme, les phénomènes de résistance sont extrêmement importants. Et on a vu à nouveau que les efforts de prévention étaient insuffisants puisqu'on observe une résurgence du paludisme, notamment dans la zone du Sahel. Après des années où le paludisme a été réduit, le nombre de cas a eu une réduction, on observe une augmentation à nouveau qui est assez alarmante et qui demande qu'on réagisse très rapidement. De la même façon, la tuberculose, eh bien, là encore, il y a des résultats importants qui ont été enregistrés à la fois depuis la création du fonds et puis l'an dernier tout particulièrement puisqu'on a vu 5,3 millions de personnes qui ont reçu des traitements contre la tuberculose l'an passé. Néanmoins, là, il faut vraiment redoubler d'efforts. Donc nous, on se vise à s'assurer qu'on trouve ce qu'on appelle les personnes qui manquent, c'est-à-dire des personnes qui en fait sont porteuses de la tuberculose mais qui ne le savent pas et qui ne sont pas traitées. On estime qu'il y en a 3,6 millions dans le monde et tant qu'on ne les a pas trouvées et mises sous traitement, évidemment, le virus continue de prospérer et de mettre en danger la vie de très très nombreuses personnes. Donc dans ce sens, le Fonds mondial a lancé un programme catalytique destiné à trouver 1,5 million de cas supplémentaires d'ici fin 2019, donc c'est un programme très ambitieux. Et déjà en 2018, on a enregistré des résultats importants puisqu'on en a identifié et placé sous traitement 920 000. Donc on est presque aux deux tiers de la cible par rapport à 2015. Et donc ce qu'on demande à la communauté internationale et à tous les partenaires, c'est vraiment d'accélérer le mouvement. Parce que les épidémies ont leur logique propre et si on n'accélère pas les efforts qu'on est en train d'accomplir sur les trois maladies, et sinon on risque de perdre tous les progrès engrangés au cours des 17 dernières années.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info. Retrouvez sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.